source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Winnipeg, au Manitoba, niché au confluent des rivières Rouge et Assiniboine, est reconnu pour son climat rigoureux. Et pourtant, depuis la fin du 19e siècle, un flot constant d'immigrants augmente la population de cette ville. Aux pionniers venus de la vieille Europe ont succédé de nouveaux arrivants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui concerne l'un de ces milliers d'immigrants. Tout commence le 11 septembre 1990. Le corps inanimé de Bibi Khan, 27 ans, est découvert dans un gros congélateur.
C'est son frère, Mohamed Khan, qui l'a trouvé. Il a tout de suite appelé les services d'urgence. Le personnel des services d'urgence et les premiers intervenants du service d'incendie ont appelé la police, car il était évident que la personne était morte. Dès le départ, j'ai participé à l'enquête.
Afin d'établir les faits, le sergent Foster de la brigade des homicides de Winnipeg interroge les pompiers, le frère de la victime et quelques voisins. Qu'est-ce qui a empêché Bibi de soulever le couvercle? Cette question intrigue le policier.
Il n'y avait pas de serrure. C'était un congélateur ordinaire du type coffre, avec un cordon d'étanchéité. Selon l'intervenant sur les lieux, l'intérieur du congélateur était chaud et humide à cause de la chaleur émanant du corps qui s'y trouvait. Après avoir enlevé le corps du congélateur, nous avons constaté que du scellant avait récemment été appliqué dans le but évident de boucher toutes les fuites.
Bibi et son frère aîné partagent une maison, rue Alfred. Elle est arrivée de Guyane il y a 4 ans pour vivre au Canada, à l'invitation de son frère, qui a immigré quelques années plus tôt. Plusieurs éléments rendent le décès de Bibi Khan suspect aux yeux des policiers.
Elle avait des problèmes de dos, séquelles d'un accident de voiture où elle avait été impliquée. Il est donc étrange qu'elle se soit recroquevillée dans un congélateur, mais ça, c'était son explication.
Les enquêteurs se demandaient aussi si la victime avait pu être incommodée par quelque chose. Par exemple, les produits chimiques du produit dans le pistolet à calfeutrer.
C'est du silicone. Cela sent mauvais. Pour ce qui est de la toxicité du produit, j'en sais rien. Outre le fait que l'odeur soit désagréable, je ne crois pas que le produit soit mortel.
Les policiers, qui trouvent cette mort plus que louche, font de Mohamed Khan leur principal suspect. Ils obtiennent sans difficulté un mandat de perquisition pour le domicile de la défunte.
On lui a interdit l'accès à son domicile pour plusieurs jours, pendant que nous poursuivions notre perquisition. Nous avons examiné chaque tube, bouteille, vial de tous les produits que les gens ont chez eux pour faire des réparations ou pour s'adonner à leur passe-temps.
Les policiers ne trouvent rien qui puisse expliquer que Bibi n'ait pu soulever la porte du congélateur. L'autopsie du corps de la victime révèle qu'elle est morte asphyxiée, de cause indéterminée. Par contre, le pathologiste remarque la présence de nombreux médicaments dans le sang de la victime.
En regard du décès de Bibi, elle avait tellement de drogues dans son système qu'elle aurait été somnolente. Elle avait tellement d'ordonnances que le Collège des médecins du Manitoba a vérifié la façon dont son médecin prescrivait les médicaments. Il a aussi souligné qu'elle était dans une position fœtale dans le congélateur et qu'elle ne pouvait s'être placée dans cette position. On l'a déposée là.
Le rapport d'autopsie n'offre aucune preuve définitive expliquant comment et pourquoi Bibi Khan est morte. À la recherche d'indices, l'enquête policière plonge dans le passé de Mohamed Khan et découvre des faits troublants.
Il était divorcé. Et nous avons aussi découvert qu'il avait été accusé de bigamie alors qu'il vivait ailleurs au pays pour un mariage de convenance dans le but de faciliter des questions d'immigration.
Certains documents saisis à son domicile se révèlent particulièrement instructifs.
Il y a l'assurance vie. Il a transféré l'hypothèque sur la maison au nom de Bibi. Elle a obtenu une hypothèque et a acheté la maison. Il s'est retrouvé avec un important montant d'argent. L'assurance vie était sur sa vie à elle, et au fur et à mesure que l'enquête avançait, il devenait évident qu'il ne payait rien. Il ne payait pas les taxes d'eau, les taxes foncières, et la seule fois où ses comptes étaient à jour était lorsque la ville a fait enquête parce que Bibi était sur l'aide sociale.
L'entrée de gaz naturel a été fermée. Et la maison était chauffée par environ 8 plintes électriques. Le chauffe-eau avait aussi été modifié pour pouvoir installer un chauffe-eau électrique à côté. Alors que nous étions sur place, le sous-sol était plutôt frais, pour ne pas dire froid, et on avait installé un séchoir à cheveux bricolé pour empêcher la tuyauterie de geler.
Les comptes pour la police d'assurance étaient toujours payés à temps. Les primes étaient toujours acquittées. Il semble que c'était les seuls qui l'aient jamais payé. Donc, il y avait l'assurance. Et il est clair qu'il l'utilisait comme une vache à lait.
Mohamed Khan est le bénéficiaire de plus de 250 000 dollars d'assurance vie souscrite par Bibi Khan sur sa propre vie. Dans son testament, Bibi décrit l'étendue de sa reconnaissance envers son frère en le faisant le légataire de tous ses biens. Elle explique « Il est responsable de ma venue au Canada. Il s'est occupé de mes études et de tous mes besoins. C'est pour cela que je tiens à le remercier de cette façon. »
Nous avons enquêté cette affaire pendant longtemps. Et plus tard, environ 14 mois plus tard, nous avions une rencontre avec le médecin légiste en chef. Nous étions toujours en mal de trouver de la preuve. Oui, c'est une mort suspecte. Nous ne voulions pas classer l'affaire, mais nous n'avions aucune preuve contre lui. Au Canada, le système légal repose sur la preuve et nous n'en avions pas.
Avec regret, le sergent Foster se voit obligé de fermer le dossier. Après la clôture de l'enquête, Mohamed Khan essaie de toucher les assurances-vie placées sur sa défunte sœur. Mais les deux compagnies refusent de payer, au motif que le décès de Bibi est un suicide. Khan les menace de poursuites judiciaires. Finalement, 2 ans après le décès de Bibi Khan, les parties se mettent d'accord sur un règlement à l'amiable. Mohamed Khan touche 55 % du montant des deux assurances, soit un montant de 137 000 $. 3 ans plus tard, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Winnipeg. Puis, soudain, le passé fait un retour brutal. Pour quelles raisons les policiers sont-ils de retour chez Mohamed Khan? Le 11 septembre 1990, Mohamed Khan trouve le corps de sa sœur Bibi dans leur congélateur. L'autopsie la déclare morte par asphyxie sans cause identifiable. Son décès n'en demeure pas moins suspect. Et pendant plus d'un an, l'inspecteur Foster et ses collègues de la brigade des homicides cherchent des preuves pour inculper Mohamed Khan du meurtre. Mais ils ne parviennent qu'à accumuler des présomptions. Suite au décès de sa sœur, Mohamed Khan empoche plus de 130 000 $ d'assurance-vie. Dans la nuit du 26 décembre 1993, les policiers arrivent chez Mohamed Khan à sa demande. C'est la deuxième fois en un peu plus de 3 ans que la police visite le domicile de Khan.
Dans le système informatique, dès que vous tapez une adresse, les événements qui y sont reliés apparaissent avec la liste des numéros de rapport. Par exemple, les policiers qui se rendent à cette adresse sont informés des événements passés, comme une mort suspecte est survenue à cette adresse il y a tant de mois ou tant d'années, et soyez-en conscients.
Il raconte qu'il est sorti avec son épouse et qu'elle a quitté tôt dans la soirée pour rentrer à la maison, qu'elle a dû avoir du mal à débarrer la porte et qu'elle n'est pas là lorsqu'il arrive à la maison. Il est inquiet et demande qu'on l'aide à la retrouver.
La jeune femme disparue s'appelle Surita Khan. Elle a 21 ans et a rencontré Mohamed Khan lors d'un voyage en Guyane. Ils sont mariés depuis plus de 2 ans.
Les policiers effectuent aussitôt une recherche de la maison et de la cour, ainsi que d'une fourgonnette garée au fond de la cour. Et ils y découvrent Surita Khan, souffrant d'hypothermie. En fait, elle souffre d'engelure et son pied droit est en piteux état. Nous sommes à la fin décembre et à Winnipeg, les températures de moins 25, moins 30 sont monnaie courante. Si elle ne peut débarrer la porte de la maison, on peut se demander pourquoi elle est allée se réfugier dans un véhicule dont elle n'a pas les clés pour le mettre en marche.
Que Surita se soit recroquevillée, tout engourdie par le froid dans la fourgonnette du couple, ne paraît pas logique au Dr. Gordon Giesbrecht, un spécialiste de l'effet du froid sur le corps humain.
En fait, nos corps sont de gros morceaux de viande qui combattent bien la température. Il faut beaucoup d'énergie pour refroidir notre masse. On commence à frissonner, ce qui augmente notre production de chaleur. Voilà pourquoi il faut beaucoup de temps avant d'être en hypothermie. À l'air froid, cela peut prendre plusieurs heures. S'endormir au cours de ce processus, chez une personne qui n'a pris ni drogue ni alcool, est très peu probable. Parce que c'est douloureux.
Des signes d'engelure sont évidents sur le pied de Surita Khan, mais on ignore comment elle est devenue inconsciente. Surita est amenée à l'hôpital et obtient son congé le lendemain. On lui recommande de prendre du repos, de rester au chaud et de s'assurer que les ampoules sur son pied sont propres.
S'ils ont fait le bon traitement post-traumatique, ils lui ont mis les pieds une fois, si ce n'est 2 ou 3 fois par jour, dans un bain à remous. C'est le traitement accepté pour les engelures. Ils se forment habituellement des ampoules, alors non seulement il faut garder la partie affectée bien au chaud, mais dès que les ampoules apparaissent, il faut aussi penser stérilité, car il ne faut pas que ces ampoules s'infectent. Pour donner le bain tiède, vous enlevez les bandages, vous donnez le bain tiède, puis vous asséchez et vous refaites les bandages.
Le 4 janvier, un peu plus d'une semaine après l'incident de la personne disparue, la police de Winnipeg est appelée une troisième fois à la résidence des Khan.
Une jeune femme a été découverte par son mari dans la baignoire et semblerait s'être noyée. Mohamed Khan, époux de la défunte, enlevait le bouchon de la baignoire alors qu'il parlait à l'opérateur du 911 et que ce dernier lui demandait évidemment de pratiquer la RCR. Arrivé sur les lieux, le service ambulancier de Winnipeg a tenté les manœuvres de réanimation, mais en vain.
La jeune femme trouvée dans la baignoire n'est nulle autre que Surita Khan.
Ces circonstances étaient vraiment très suspectes. L'enquête sur la mort de Bibi Khan, la disparition de Surita et sa découverte dans la fourgonnette étaient autant de signaux d'alerte pour les enquêteurs.
Mohamed Khan s'empresse d'expliquer à la police comment il a découvert sa conjointe.
Mohamed n'était pas à la maison. Son épouse lui a téléphoné lui disant qu'elle avait une sensation de démangeaison. Mohamed lui a dit « prends un bain ». Il a répété « prends un bain et va te coucher, tu vas te sentir mieux ». Il a continué à faire ses courses et lorsqu'il est rentré à la maison, elle était dans la baignoire, mais sous l'eau. Il a téléphoné à la police. Tout le monde s'est précipité sur les lieux.
À première vue, tout porterait à croire que la jeune femme est morte noyée. De plus, d'après les témoignages des secouristes, le corps de la victime était mouillé quand ils sont arrivés.
Les policiers lui ont dit « Votre épouse est morte ». D'abord, il semblait incrédule, mais il n'a pas manifesté beaucoup d'émotion. Essentiellement, il a dit « Comment peut-elle être morte, car l'eau est encore chaude ?»
La question de Khan est très intrigante.
Déjà, le corps se refroidissait. La rigidité cadavérique s'installait. Il a donc été impossible de l'intuber. Si je considère les différents éléments, d'après moi, elle était morte depuis un bon moment, probablement deux, peut-être même depuis 4 heures. Règle générale, c'est la rigidité de la mâchoire qui empêche l'insertion du tuyau respiratoire et cela prend approximativement de 2 à 4 heures dans des conditions tempérées.
Le commentaire de Khan est donc en contradiction avec l'examen du corps. De plus, les noyades dans une baignoire sont très rares.
Habituellement, les gens qui meurent dans la baignoire ou dans la douche ont des problèmes de santé majeurs qui les rendent vulnérables en cas d'accident, une maladie cardiaque par exemple, ou des convulsions, ou encore, ils sont sous l'influence de drogues ou de toxines nocives. Les morts naturelles qui surviennent en baignoire ne sont habituellement pas par noyade. Ils ont une crise cardiaque et c'est par hasard qu'ils sont en train de prendre un bain lorsqu'ils meurent.
Kerry Armit, un spécialiste de l'identification judiciaire, examine l'état de la salle de bain avec attention.
Cela avait l'air d'une mise en scène. La barre à serviettes sur la porte coulissante en verre qui entoure la baignoire avait été brisée et une partie de cette barre à serviettes était dans la baignoire. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait une robe de nuit dans la salle de bain, mais qu'il n'y avait aucune serviette. Nous avons trouvé cela étrange. Elle était peut-être dans la baignoire. Cependant, on peut douter que quelqu'un ait pris un bain, car normalement, il reste toujours de l'eau dans la baignoire ou dans la vidange pour quelques heures après, et la baignoire semblait bien sèche. Pas une goutte d'eau dans la baignoire.
Alerté par ces contradictions et les antécédents de Mohamed Khan, les policiers font un premier examen des lieux.
Je me souviens d'avoir fouillé d'autres pièces de la maison à ce moment. Nous ne l'avons pas fouillé de la cave au grenier et saisi toutes nos pièces à conviction ce soir-là. Nous avons examiné l'arrangement des vêtements, la disposition des pièces de la maison et des meubles et... Y avait-il des signes d'une bousculade, par exemple? Ce sont des choses comme ça que nous avons cherchées. Nous avons trouvé des polices d'assurance et aussi de la documentation relative à l'utilisation des plantes toxiques. Tout cela nous intéressait grandement.
En fait, on lui a posé la question. Avez-vous une police d'assurance sur la vie de votre épouse? Et là, il est passé en mode défensif. Cela ne vous regarde pas. Plus que tout, cette réponse a vraiment été déterminante dans la décision de la police à l'effet de mettre en branle tout le processus d'une enquête plus approfondie.
Il y a assez d'éléments troublants pour justifier la demande d'un mandat de perquisition pour effectuer une fouille complète. Mohamed Khan est escorté hors de sa maison et n'a pas le droit d'y revenir avant la fin de l'enquête.
J'étais en voyage de chasse au centre nord du Manitoba lorsque cette nouvelle m'est parvenue. L'adresse, une femme trouvée morte. Ma curiosité était piquée. Oh, je connais cette adresse. Et là, on a mentionné le nom Khan. Alors là, je me suis dit, OK, cela sent mauvais. J'avais déjà des doutes. J'ai téléphoné à mes supérieurs et j'ai coupé court à mon voyage de chasse. je suis rentré à Winnipeg pour participer à l'enquête.
Le sergent Foster, qui a mené l'enquête sur la mort de Bibi Khan, est affecté à cette affaire.
On m'a informé que Sureta Singh Khan avait été trouvée morte dans la baignoire. Elle avait été hospitalisée quelques jours plus tôt. C'est l'hiver à Winnipeg. Et elle avait passé la nuit dans une fourgonnette parce qu'elle n'avait pas pu entrer dans sa maison pour une raison ou pour une autre.
Les enquêteurs soupçonnent sérieusement que Mohamed Khan a voulu assassiner sa femme.
Tout le monde l'aurait soupçonné, mais dans ce pays, on ne peut agir sur des soupçons. Il faut des preuves.
Mohamed Khan est-il un homme tragiquement frappé par le destin? Ou alors est-il, comme le soupçonnent les enquêteurs, un meurtrier au sang-froid, doté d'une étrange capacité à brouiller les cartes? La double mort de la sœur puis de la femme de Mohamed Khan, à plus de 3 ans d'écart, fait peser le soupçon sur cet homme de 38 ans, immigrant guyanais, d'origine indienne. Les parallèles entre les deux affaires sont troublants. Deux jeunes femmes guyanaises, isolées et vulnérables, deux décès aux circonstances peu claires, deux séries de police d'assurance-vie. Le 5 janvier 1994, au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, le pathologiste judiciaire Kelly MacDonald procède à l'autopsie de la deuxième dépouille, Sureta Khan.
D'entrée de jeu, je dirais que je n'aborde pas un cas en me disant que c'est un homicide. C'est une mort suspecte, une mort qui suscite des questions. Mais l'homicide est une décision de la cour ou du médecin légiste. Mais s'il y a mort suspecte, toute l'information que je puisse avoir sur l'état de santé de la personne décédée, ses habitudes, ses choix de vie, dépendance ou non à l'alcool ou à la drogue, la dernière fois qu'on l'a vue vivante, si elle se portait bien, où elle était, tout cela aide énormément.
Les préliminaires terminés, le pathologiste peut commencer l'autopsie.
Une toute petite femme parfaite. Elle ne pesait que 35 kilos, c'est moins de 80 livres. Elle mesurait presque exactement 5 pieds, mais elle ne souffrait pas de malnutrition. Nous notons tous les vêtements ou articles qui arrivent avec le corps. Nous prenons des photos à l'échelle ou non, afin de pouvoir situer les blessures ou autres. Nous prélevons différents spécimens du corps, des échantillons de cheveux ou du système pileux. Nous examinons les ongles et en prélevons des échantillons. Lors d'un examen médico-légal, contrairement à un examen pour un décès survenu à l'hôpital, s'il s'agit d'une mort violente, vous allez trouver la plus grande partie de l'information utile à la surface du corps.
À cause des antécédents de Mohamed Khan avec la justice, un très grand nombre d'échantillons, y compris les liquides corporels, sont prélevés sur le corps de la victime. Le docteur MacDonald remarque aussi que la peau de la victime est parfaitement lisse, ce qui contredit l'hypothèse d'un séjour prolongé dans l'eau de la baignoire.
Après 2 heures dans l'eau, elle serait plissée comme un pruneau. Je ne vois rien de tel. Si elle avait été dans l'eau chaude, non seulement sa peau serait plissée, mais elle commencerait même à se détacher, en particulier aux paumes des mains et des pieds. Les cheveux se détachent et commencent à tomber. Et encore une fois, si l'eau était chaude, les tissus en dessous auraient eu l'apparence d'un jambon semi-cuit. Rien de cela. Alors, rien ne m'indique qu'elle ait été longtemps dans l'eau froide et rien ne m'indique qu'elle ait été dans l'eau chaude pour une courte période. Elle n'est pas morte dans cette baignoire.
Mais si la victime n'est pas morte dans la baignoire, qu'est-ce qui a causé son décès? Informé de l'épisode du 26 décembre, le docteur MacDonald passe en revue les marques laissées par le séjour prolongé de Sureta au froid, afin de les éliminer de sa recherche. Il constate des engelures au pied de la victime, ainsi que de profondes ampoules sur un seul pied. Mais ce ne sont pas les seules traces qui marquent la peau de la victime.
Cette jeune femme avait quelques pétéchies. Elles étaient sur la membrane muqueuse d'un œil. Et elle en avait dans le nez. Et il y en avait quelques-unes sur la surface antérieure des poumons. Elle ne pouvait pas être le résultat des engelures ou de l'hypothermie qu'elle avait subie il y a 7 ou 8 jours, parce qu'elle serait guérie. Vous savez, elles sont très petites, elles sont grosses comme une tête d'épingle, alors que ces pétéchies étaient récentes. De toute évidence, elles dataient du moment du décès. On les trouve fréquemment dans les cas de mort par asphyxie, les morts où il y a compression suffisante du cou ou de la poitrine, pour réduire la circulation de l'air et du sang dans le corps. L'importance de cette trouvaille dépend des circonstances, de l'historique de la victime et non de la présence des pétéchies.
Suite à l'examen externe, le médecin procède à l'examen interne.
Le contenu de l'estomac m'intéressait au plus haut point dans le cadre de l'enquête. Si une personne se noie, une chose qu'elle fait, pas toujours, mais qu'elle peut faire, c'est qu'elle cherche de l'air et, ce faisant, elle avale de l'eau. Rechercher si le contenu de l'estomac est aqueux permet de pointer la colonne positive plutôt que de pointer la colonne négative du rapport. Nous avons donc préservé et examiné le contenu entier de son estomac. Et il s'est avéré que c'était un riocari bien sec, absolument pas aqueux. On aurait pu identifier chaque grain de riz. Nous l'avons conservé et le tout a été envoyé au laboratoire de toxicologie. Je n'avais aucune évidence d'eau dans l'estomac.
Les premières observations du Dr McDonald excluent la mort par noyade et suggèrent une asphyxie intentionnelle. L'autopsie seule ne permet pas au pathologiste de se prononcer définitivement. Il doit attendre que le laboratoire termine l'analyse des spécimens envoyés. Les résultats des tests toxicologiques feront-ils pencher la balance? Les enquêteurs s'apprêtent à faire une seconde fouille plus détaillée de la maison de Mohamed Khan. Découvriront-ils la preuve qui leur permettra d'arrêter Mohamed Khan pour le meurtre de sa femme? Janvier 1994. La police de Winnipeg soupçonne Mohamed Khan du meurtre de sa femme Sarita. Près de 3 ans plus tôt, celui-ci était suspect dans le décès de sa sœur Bibi. Mais faute de preuves, les enquêteurs avaient été obligés de fermer le dossier. Le 25 janvier, le Dr McDonald reçoit le rapport de toxicologie.
On a décelé chez cette femme des traces de diverses drogues, à des niveaux très bas. Et parmi ces drogues, certaines d'usage courant, comme de l'antihistaminique. C'est en fait une variété de somnifères qu'on peut acheter sans ordonnance. En plus, il y avait chez cette femme au moins 2 opiacés narcotiques. Un narcotique commun, disponible sans ordonnance au Canada, la codéine, et un autre narcotique plus puissant, sur ordonnance seulement, commercialisé sous le nom de Demerol. Là encore, de petites doses, un peu moins qu'une dose thérapeutique. Mais 2 narcotiques et 1 antihistaminique, des sédatifs qui potentialisent leurs effets, si bien que le degré de somnolence chez cette femme pouvait être non pas 2 fois, parce qu'elle avait 2 drogues, cela pouvait être 3 ou 4 fois et même davantage l'effet qu'elle aurait eu si elle les avait pris séparément. Il y avait aussi ce facteur étrange et compliquant qu'on a identifié un composé organique volatile nommé chloroforme. Les gens connaissent le chloroforme parce qu'autrefois, on l'utilisait comme anesthésiant.
Le Dr McDonald rédige son rapport après avoir consulté le médecin légiste en chef.
Sur l'avis et selon l'opinion du médecin légiste en chef, le Dr Mark Stein, la cause de la mort a été attribuée par asphyxie. Il y a plusieurs façons dont une personne peut être asphyxiée et compte tenu de l'intérêt que présente le chloroforme comme facteur contribuant, mais non déterminant dans cette mort, il m'a conseillé de préciser l'effet du chloroforme. Une mort par asphyxie peut être si subtile qu'elle ne sera pas détectée. Et cela s'applique bien à comment tuer avec douceur une toute petite femme intoxiquée sans laisser presque aucune trace. Mon opinion à l'effet que le corps a été déplacé repose sur l'effet de la rigidité cadavérique et d'aucun changement au tissu après une immersion prolongée en eau froide ou chaude.
La conclusion du médecin légiste confirme les soupçons des enquêteurs et du procureur. La police soupçonne que Mohamed Khan s'est servi de chloroforme pour endormir ses victimes.
Nous sommes persuadés que c'est lui qui l'a asphyxié par usage d'une force externe et qui l'a placé dans la baignoire.
Le médecin légiste en chef demande alors que les enquêteurs retournent à la résidence de Mohamed Khan et cherchent des preuves pour soutenir les résultats des examens toxicologiques.
Il voulait amasser toutes les parcelles de preuves qu'il pourrait possiblement trouver parce qu'il croyait, à ce point dans l'affaire, qu'il s'agissait non d'un seul meurtre, mais probablement de deux meurtres, avec celui d'il y a 3 ans.
Un des premiers objectifs des policiers, trouver du chloroforme et des contrats d'assurance-vie. Cette fouille systématique dure 5 jours.
Nous avons trouvé des aiguilles et des seringues. Je ne crois pas que M. Khan ou son épouse aient souffert de diabète. Il n'y avait donc aucune raison médicale à la présence de ces seringues, sinon pour l'injection de drogue. Nous avons ramassé tous les liquides et poudres non identifiées, ce qui nous a donné une quantité énorme de pièces à conviction. Il y avait des fioles de médicaments d'ordonnance partout dans la maison, incluant le sous-sol et dans la fourgonnette garée à l'arrière. Il y avait des pilules dans certaines fioles, d'autres étaient vides. Il y avait aussi un certain nombre de médicaments disponibles sans ordonnance. Nous avons tout saisi.
Les policiers découvrent un document inattendu et compromettant.
Il y avait des papiers sur une petite table dans le salon, et parmi ces papiers, il y avait un document manuscrit intitulé « 12 étapes pour commettre le crime parfait », lequel nous avons trouvé extrêmement intéressant, et évidemment, une analyse graphologique a été faite avec des échantillons connus de l'écriture de M. Khan pour démontrer qu'en fait, M. Khan aurait pu être l'auteur de « 12 étapes pour commettre le crime parfait ». Quelques-unes des 12 étapes pour commettre le crime parfait mentionnaient, par exemple, trouver une fille naïve, la convaincre que vous êtes un type formidable, la séduire en lui promettant de fonder une famille avec elle. La convaincre de l'importance d'avoir une police d'assurance. Au cours de l'hypnose, confirmer la validité de la réincarnation. Rien à craindre, une mort sans douleur. La fouille de la maison a permis de trouver 3 polices d'assurance, je crois, totalisant environ $500,000.
Et il semble que Khan ait utilisé un pseudonyme, un faux nom, pour s'inscrire comme bénéficiaire, parce que la compagnie d'assurance a besoin du nom du bénéficiaire lorsqu'il y a versement. Il ne voulait pas qu'on puisse le retracer. OK, j'ai eu de l'argent pour Bibi Khan. Maintenant, je suis le bénéficiaire de cette police d'assurance.
Les enquêteurs ne trouvent chez Mohamed Khan aucun document prouvant qu'il avait un emploi pour subvenir à ses besoins. Il devient de plus en plus clair que l'escroquerie à l'assurance vie constitue pour le suspect une façon de subsister sans avoir à travailler.
Sa sœur est décédée il y a 3 ans. Il a touché plus de $100,000. Maintenant, 3 ans plus tard, son épouse meurt soudainement et il devrait y avoir un autre versement d'assurance. Durant cet intervalle de 3 ans et avant le décès de sa sœur, beaucoup de comptes étaient en souffrance. Cependant, pour ce qui est des primes pour les assurances-vie des 2 femmes, elles ont été payées de façon constante et régulière.
La police a maintenant saisi plus de 1000 pièces à conviction de la maison de Mohamed Khan et découvert un motif pour meurtre. Est-ce que les enquêteurs seront capables de lier toutes ces preuves au décès de Bibi et Surita Khan? Soupçonné du meurtre de sa sœur en 1991 et de son épouse en 1994, Mohamed Khan est sur le point d'être arrêté par la police de Winnipeg. Le sergent Foster arrive au domicile de Khan avec un mandat d'arrêt en main.
Il ne répondait pas. Nous avons alors poussé la porte et elle s'est ouverte. Nous sommes entrés en criant que c'est la police. Il parle au téléphone à une avocate. J'ai dit, « Police, vous êtes en état d'arrestation pour deux motifs. Meurtre au premier degré de Bibi Khan et de Surita Singh. Et vous allez venir avec nous. » Son avocate était au téléphone et je lui ai parlé brièvement. Elle m'a dit, « Vous ne l'interrogerez pas et il ne fera aucune déclaration. » J'ai répondu, « Faire une déclaration, c'est sa décision. Mais poser des questions, c'est notre travail. » Et nous allons lui en poser. Je l'ai amené à nos bureaux. Et là, nous l'avons interrogé. Je vous accorde que durant toute la durée de l'interrogatoire, il n'a pas dit grand-chose. Il était froid et calculateur. Il était arrogant et faisait valoir qu'il avait faim et soif et voulait de la nourriture et de l'eau. Nous avons tiré de lui qu'il ne nous dirait rien. Ce qui est certainement son droit. Mais il devait aussi savoir que nous avions trouvé des traces de chloroforme dans le cerveau de Surita, que c'est une base suffisante pour un meurtre. Nous croyons qu'il avait commis ce meurtre et qu'il avait aussi tué Bibi de la même façon.
Depuis deux semaines, personne n'a réclamé la dépouille de Surita pour l'enterrer. Sa famille en Guyane n'a pas d'argent pour la rapatrier. L'avocat de Mohamed Khan dépose une demande pour que le corps de la victime reste au Canada afin qu'il soit examiné par des experts indépendants. Le ton est donné. Le suspect, loin de collaborer, combattra l'accusation coup pour coup. L'autopsie de Surita Khan a révélé la présence de chloroforme. Le médecin légiste ordonne que des analyses soient faites sur des spécimens appartenant à Bibi Khan. Ces tests révèlent aussi des traces de chloroforme.
La théorie de la couronne était que Bibi était somnolente du fait des drogues. Au départ, il pensait chloroforme. Ensuite, il se disait qu'elle avait été placée dans le congélateur, dont on avait fermé le couvercle et où elle avait suffoqué.
Alors que le procureur de la couronne monte son dossier contre Mohamed Khan, des nouvelles surprenantes arrivent du laboratoire judiciaire. Le laboratoire avait continué de tester des cadavres pour la présence de chloroforme et on a découvert que 80 % des cadavres contenaient cet anesthésique.
Le produit se retrouve dans diverses applications industrielles. C'est un contaminant qu'on trouve dans l'eau, dans l'air, dans l'environnement. On en trouve des traces infimes, ça et là, un peu partout. En ma qualité de pathologiste, j'ai du mal à accepter cela, parce qu'il n'y a pas de tableau standard auquel on peut se référer. Alors, ceci n'est pas de l'information, ce n'est que du bruit qui contribue à mêler les cartes.
Dans un sens, ce qui a amené Mohamed Khan dans son aventure à travers le système judiciaire repose sur une erreur.
L'accusation laisse tomber le chloroforme. Mais avec plus d'un millier de pièces à conviction, leur cause est encore très forte. En fait, c'est l'affaire avec le plus grand nombre de preuves jamais présentées au Manitoba à l'époque. Mohamed Khan est accusé de meurtre au premier degré sur les personnes de Bibi et Surita Khan. Le procès s'ouvre le 29 mai 1995. Le procureur décrit la théorie de la couronne sur comment Surita Khan a été tué. Le 4 janvier 1990, dans l'après-midi, Mohamed Khan s'apprête à quitter son domicile. Il s'assure avant de partir que Surita prend ses médicaments, un cocktail d'analgésiques et d'antihistaminiques. Soucieux de son alibi, Mohamed Khan sort faire des achats et garde précieusement les tickets de caisse indiquant la date et l'heure. Ensuite, il visite un ami pour compléter son alibi. Surita appelle Khan chez son ami et se plaint de démangeaisons. Il lui dit de prendre ses médicaments et de se mettre au lit. « Vers 17 heures, Khan rentre chez lui. Il trouve Sarita en train de somnoler, allongée sur son lit. Il prend alors un coussin et l'applique contre le visage de sa femme, qui, à moitié consciente, se débat à peine. L'opération ne prend en tout que quelques minutes. Il traîne le corps de Sarita dans la salle de bain. Il la place sur le sol et organise tout pour laisser croire qu'il a tenté de la ressusciter. Vers 19 heures, il compose le 911. Le procureur termine sa version des faits. Puis, la défense s'emploie à prouver que celle-ci est fausse.
Le pathologiste témoignant pour la défense a fait une déclaration différente, eu égard à la quantité d'eau qui s'est écoulée de la bouche de la femme lorsque les ambulanciers ont tenté de la réanimer. Il croyait que non, c'est compatible avec la noyade. Les pathologistes témoignant pour la défense disaient essentiellement qu'ils croyaient qu'il y avait de fortes chances qu'elle avait eu une crise et qu'elle en était morte.
Autre fait troublant concernant les deux victimes est qu'aucune ne s'est jamais plainte de Mohamed Khan. Au procès, l'avocat de la défense produit même une cassette audio qui fait sensation.
Bibi Khan a fait un enregistrement racontant sa vie misérable. On l'a battue, on l'a violée. Sa famille l'obligeait à aller chercher du thé, à aller chercher de l'huile de cuisson. Et comment allait-elle payer pour ses marchandises? En ayant des relations sexuelles. À ses funérailles, elle voulait une seule personne, son frère Mohamed Khan, parce qu'il était le seul membre de sa famille à bien la traiter. Elle parlait de son frère en ces termes. Lors du procès, un psychiatre a dit qu'essentiellement, cet enregistrement est une lettre de suicide. Mais cela démontrait l'amour qu'elle vouait à ce frère qui était accusé de l'avoir tué.
La défense proclame que les pétéchies, ou marques roses trouvées sur le corps de la victime, auraient pu être provoquées par l'hypothermie dont a souffert la jeune femme le 26 décembre. La poursuite appelle le Dr. Giesbrecht afin de contrer cet argument.
Il n'y a pas de lien entre des engelures aux pieds ou sur un corps en hypothermie et des pétéchies au visage une semaine plus tard. Non, le seul endroit où vous pourriez avoir des taches colorées sur la peau serait là où il y a eu des engelures.
La présence de pétéchies sur le visage prouve que Sarita a été asphyxiée. Le fait que dans le cas des deux victimes, des assurances-vie aient été prises au bénéfice du suspect ajoute du poids au dossier de la poursuite. Puis, il y a le document trouvé par les enquêteurs et écrit de la main de Mohamed Khan. 12 étapes pour commettre le crime parfait. Ce document non seulement donne une idée de la façon de penser du suspect et de sa stratégie, mais il donne explicitement la liste de 5 victimes, toutes des femmes, tuées entre 1970 et 1994. L'auteur indique qu'il continuera à ajouter des noms à cette liste jusqu'à ce qu'on l'arrête. À l'issue d'un procès long et controversé, le jury rend son verdict.
Ils ont déclaré Mohamed Khan coupable de meurtre au premier degré, tant pour son épouse Sarita que pour sa sœur Bibi. Le meurtre au premier degré entraîne une peine de 25 ans. Essentiellement, c'est l'emprisonnement à vie. Aucune possibilité de libération avant 25 ans. Mohamed Khan avait donc devant lui 25 ans d'emprisonnement.
Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car la combativité de Mohamed Khan n'a pas de limite. L'inculpé fait appel de la décision du jury. Ainsi commence une série de procès et d'appels qui dureront plus de 5 ans et qui font de cette affaire la plus coûteuse de l'histoire judiciaire du Manitoba. Mohamed Khan a perdu son appel dans l'affaire Sarita Khan. Il purge aujourd'hui sa peine au pénitencier de Stony Mountain, au Manitoba. Pour brouiller les pistes, Mohamed Khan a essayé de mettre le décès de sa femme sur le compte d'une noyade accidentelle dans une baignoire. Mais il avait oublié une chose. L'eau est un élément qui échappe au contrôle. Elle coule entre les doigts. On ne peut pas faire d'elle ce qu'on veut.